Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now, nothing is new. Time to live my life without you.
Savage Party. Ah, des stars, des étoiles, il y en a plein le ciel. Hein. Ce soir, c'est la nuit des Perséides. Hein. Une centaine d'étoiles filantes tous les heures. Bah oui, autant lever un peu les yeux au ciel et écouter la radio.
Nostalgie Party sur Nostalgie. Nostal Beach Party.
Se retrouver ensemble et faire la fête tous les soirs.
Nostalgie.
Où tu peux te dire que s'il fait encore un an exposé dans une Coupe d'Europe, dans n'importe quelle Coupe d'Europe, j'ai du mal à voir sa cote descendre. C'est un joueur hyper polyvalent qui va être important dans une saison à deux matchs par semaine, et surtout un joueur qui a encore une grosse marge de progression.
Qui a énormément progressé,
mais dans le relâchement, dans la finition, dans les choix, dans le dernier tiers, il y a encore une énorme marge de progression. Donc quand t'as un propriétaire comme Ineos, même s'il veut un peu
se
désengager.
Il a encore 3 ans de contrat en plus.
Quel est l'intérêt de sortir maintenant? En plus, le joueur n'aura certainement pas les offres. Finalement, ce n'est pas le premier choix pour un club très ambitieux qui, à mon sens, mérite. Qui le mériterait, à mon sens, parce que Guessant, c'est quelqu'un qui peut jouer le top 12 de Première Ligue sur son potentiel sans aucun problème.
En gros, pour synthétiser, tu dis reste une année supplémentaire.
Mais bien évidemment, et gardez-le. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Moi, c'est ça que on a créé un drame autour de Guessant avec des échéances hyper rapprochées que je ne comprends pas.
Ouais. Max, sur justement le cas de Guessant, est-ce que d'abord, lui, il va jouer mercredi? Parce que c'est aussi une question. Il est en instance de transfert. Potentiellement, on sait que certains joueurs, dans ces cas-là, ne jouent pas pour éviter les blessures.
La question se pose. En effet, la question se pose. Sur le dernier match amical, il avait démarré sur le banc. Enfin, voilà. La question, on va dire qu'il est plutôt en balance avec Isaac Janssen, qui est arrivé du Rapid de Vienne cet été. Mais il est possible qu'il soit préservé, Evan Guessant, pour éviter de compromettre un transfert. En fait, ce qui va déterminer s'il démarre ou non, c'est aussi de savoir si Janssen sera à 100%, parce que le Suédois avait été un petit peu gêné et ménagé sur la fin de la préparation. Mais sinon, la tendance serait peut-être même à ce que ce soit Janssen qui démarre et que Guessant soit un petit peu préservé pour éviter de faire capoter un éventuel transfert. Et tu parlais, David, du top 12 anglais. Il y a notamment Crystal Palace, qui est le nom qui
circule. Remplacer Mateta, pas idiot.
Ouais.
Pas idiot, mais après donc ce serait quoi? Ce serait Boanani, Johnson et Mofi pour démarrer contre Benfica?
Ouais.
Tu verras la tête.
Parce que à l'infirmerie, tu gardes Diop et Shaw.
Ouais.
T'as une Ndombele qui lui est un cran derrière et qui est
Boga qui est de toute façon est sur le départ.
Voilà.
Ouais.
Tendance,
c'est donc,
à, ils ont recruté libre
que tu as prêté à Montpellier. Mais il y a aussi l'autre sujet, c'est la défense centrale. Tu joues à 3, tu vas jouer à 3, de toute façon c'est le système préférentiel.
Pépin, là.
T'as,
il y en a deux, une
t'as Dante, t'as Bombito, Bombito qui s'est
Eliashemiye
qui s'est fait les croisés, t'as Abdelmoumen qui s'est fait les croisés, Bombito, qui a un problème au tibia qui va peut-être revenir qu'en octobre. Donc tu joues avec Dante, Antoine Mendy qui n'est pas forcément.
Fin août, début septembre pour Bombito.
Voilà, excuse-moi, j'ai été un peu pessimiste.
Il faut au moins 200 trop, quoi.
Et Djoumaba, en fait, qui est un très bon joueur.
Qui joue dans les 3 maintenant.
Qui est un très bon joueur, qui a fait 6 bons mois à Lens.
Melvin Barr.
Il est excellent.
Ouais. Barr peut glisser dans l'axe à gauche.
Il peut glisser dans l'axe avec Abdi, oui, bien sûr.
Et
avec
Mendy.
Ali Abdi.
Ouais.
Mais
Antoine Mendy fait une vraie belle prépa au poste d'axe droit et normalement, c'est lui qui démarrera mercredi. Et il y a Opong qu'on va découvrir, qui arrive de
Suède. Il y a une solution de repli.
Qui arrive de Suède.
Il y a une solution de repli dans le couloir gauche si on met Barr dans la défense à 3.
Abdi.
C'est Ali Abdi.
Abdi.
Ali Abdi et du coup l'autre côté Jonathan Klaus, c'est Tom Louchet. Et Tom Louchet qui aujourd'hui est la troisième option au milieu. Donc c'est pour ça que pour l'instant l'effectif est encore un peu déséquilibré et ces trois
dossiers
de départ sont en stand-by.
Toutes ces équipes qui doivent jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions, c'est que forcément on a parlé peut-être d'un tournant pour le mercato de la vente de Guessant, mais c'est un tournant déjà dans la saison de Nice à chaque fois, parce que si tu joues la Ligue des Champions,
ça va conditionner ton mercato.
Ça conditionne aussi beaucoup de choses. Donc évidemment que ça peut avoir.
Max, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que Fabrice Boquet a dit que eux, ils étaient plus ou moins sur un plan budgétaire, ils étaient conditionnés pour jouer l'Europa League. C'est ça en fait qui a été.
Totalement.
Ouais, c'est ça.
Ils ont budgété, ils sont alignés sur le projet Europa League. Ouais, on sait clair. Donc ça aurait été une grosse prise de risque
en Ligue des Champions avec une équipe Ligue Europa.
Moi j'ai pas envie. Alors le 11, moi c'est pour ça que je suis pas aussi pessimiste que beaucoup contre Benfica, parce que je trouve le 11 cohérent et bénéficiant de pas mal d'automatisme avec un système en fait avec des joueurs qui ont bien fini la saison comme Boudaoui, comme Sanson. Alors ça c'est pas, c'est en dessous qualitativement de Benfica, mais il y a quand même des automatismes qui peuvent
Ouais, mais au-delà de l'aspect sportif, c'est plus le visage qu'a montré Nice ces dernières années en Coupe d'Europe. C'est pour ça qu'on a le droit d'être inquiet en fait. C'est juste ça.
Et eux sont revanchards aussi, forcément, parce que l'image qui est restée de la saison passée, malgré la quatrième place,
c'est une cicatrice,
ça reste
ouverte.
Évidemment. Donc dans le groupe, c'est aussi une
cicatrice. Après, je veux pas les excuser, mais c'est vrai que l'explication de Francaise, qui jouait avec énormément de blessés, et tu perds tes premiers matchs, et tu sais que de toute façon, ça va être compliqué. Bon, après, c'est pas un discours que j'ai envie de cautionner.
Mais il a dû composer.
Mais tu composes et puis après, bon, tu privilégies une compétition par rapport à l'autre. D'ailleurs, il a fini quatrième, essentiellement parce qu'il a su naviguer cette période. Mais je vais pas dire que je l'excuse, mais je peux le comprendre.
Jugeons-le cette saison. Voilà.
Et c'est peut-être le plus gros atout de Nice, hein, Franck Hesse d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, c'est sa deuxième année et c'est le premier entraîneur depuis Patrick Vieira à démarrer deux saisons d'affilée sur le banc du gym. Donc c'est assez rare pour être souligné. Donc on verra encore plus, j'imagine, ses principes de jeu. J'ai vu notamment quelques matchs de prépa, celui face au Feyenoord Rotterdam, était sans doute le plus intéressant, où on est encore allé un peu plus loin, j'ai l'impression, dans le pressing, dans les ressorties de balles, combinaison, voilà. Après, est-ce que ça suffira pour sortir le Benfica Lisbonne sur aller-retour dès début août? C'est encore une autre chose, mais on imagine qu'on verra encore plus ces principes cette saison.
Alors, sur le chat, on nous dit, Willem nous dit, Nice devrait tout faire pour garder Guessant pour espérer quelque chose cette saison. Donc ça, c'était ton avis,
dans l'intérêt de tout le monde.
David. Et puis, Cédric nous dit, Nice en Coupe d'Europe, c'est lamentable, presque inacceptable, blessé ou pas. Voilà, on demande un peu d'investissement de la part de Nice. Moi, je crois pas du tout ça va faire flop, nous dit un autre Cédric. Voilà, donc c'est vrai.
C'est
que
ça qui est dommage. Nice, pâtissent de l'image, notamment de la saison dernière où ils étaient pas loin du ridicule en fait en Coupe d'Europe. Donc va falloir inverser.
Là, c'est peut-être un moment justement pour Nice face à Benfica, un grand nom d'Europe.
Paradoxalement, le deuxième tour en fait serait plus abordable que le premier. Ouais. D'ailleurs, un peu à l'image de Lille l'année dernière, qui avait joué Fenerbahçe et Slavia Prague au deuxième tour. Après, c'est des équipes très
Il faut passer ce troisième tour préliminaire qui est très très compliqué effectivement pour les équipes françaises.
Mais Nice l'a quasiment fait en 2017. Hein. Bon, c'était sous Lucien Favre avec un autre effectif et une autre dynamique. Mais Nice avait sorti l'Ajax Amsterdam, avec sa génération naissante, qui ensuite a fait parler d'elle un peu partout au Frankie de Jong,
mais absolument.
Exactement. Et derrière, par contre, ça avait bloqué face au Napoli. Mais voilà. Et d'ailleurs, l'hymne de la Ligue des Champions avait résonné à l'Allianz Riviera pour ce barrage. Nice avait touché du doigt la Ligue des Champions, mais n'y était pas parvenu. Et d'ailleurs, il reste que 3000 places à l'Allianz Riviera pour ce match de mercredi. Donc, on s'approche du guichet fermé.
Ah, c'est déjà une bonne nouvelle, ça.
Très
bien.
Juste, on va faire un petit détour dans l'after par l'athlétisme. Ça se passe à Talence, les championnats de France. Et il y a une course reine, évidemment, qu'on ne voulait pas rater sur RMC. C'est le 100 mètres. Et la chance que l'on a, c'est qu'un Français est sûr de gagner. Romain Asselin est en direct dans l'after. Salut, Romain.
Salut, les gars. Les fauves sont dans les starts, là. C'est la présentation de la finale ici à Talence, tout près de Bordeaux, pour ce championnat de France qui va durer jusqu'à dimanche. On a les épreuves reines effectivement dès le premier soir et on va surveiller trois hommes en particulier, alors que le départ sera donné à peine 2 minutes. On va surveiller Ryan Zézé, qui a la meilleure performance de la saison en 10-10, Jeff Herius, qui a remporté le championnat d'Europe Espoir il y a 2 semaines et qui lui tourne en 10-25 cette saison, et puis l'éternel Jimmy Nico, 33 ans, triple champion de France. Ça fait quelques années maintenant qu'il n'a pas ses meilleures jambes, mais il est là en finale. Il a remporté sa série tout à l'heure, tout comme Zézé et Herius, mais Vico était loin. Autant, il était à 10-38. Il y a un double enjeu, il y a le titre de champion de France et il y a les minima aussi pour les championnats du monde à Tokyo au mois de septembre. Et pour aller chercher les minima, il va falloir claquer un chrono sous les 10. Seul Jeff Herius y est parvenu ces derniers mois. C'était l'année dernière, alors qu'on vient d'entendre à vos marques derrière et que le stade de Talence se tait. Il y a à peu près 3-4 000 personnes là pour surveiller les fauves prêts à se jeter dans l'arène, alors que Mélina Robert Michon est engagée dans le concours du disque en même temps sur la piste de Talence, alors que finalement ce ne sera pas pour tout de suite puisque Ryan Zézé vient de se relever.
Et alors rien à voir avec Nathan Zézé dont on a beaucoup parlé sur RMC, hein, le Nantais. qui a rejoint l'Arabie Saoudite. On va suivre.
Ouais, non, je sais pas.
C'est... Ah bon,
tu me poses une colle.
Non, non, mais moi je te le dis. Voilà, c'est juste. Voilà, okay. c'est... Ah, oui. Il a le même nom. On retrouve Jimmy Vico d'ailleurs. Hein. Jimmy Vico, 33 ans, toujours là.
Voilà. Ouais, oui, c'est lui
référence
le record de France,
du sprint hein, français, bien sûr. Donc bien là, il y a faux départ. Donc ça va prendre un peu de temps, c'est ça?
Ouais,
c'est
ce que tu es en train de nous expliquer. On va les remettre dans les starts. Ouais, départ dans une minute environ ici sur la piste de Talence. Et donc on peut espérer un chrono sous les 10, ça va être compliqué hein, parce qu'ils sont loin encore. C'est les minima pour aller rallier les championnats du monde à Tokyo. Et s'ils ne les atteignent pas ce soir, il faudra regarder le ranking mondial, mais ils sont loin pour l'instant. Et c'est vrai que le 100 mètres masculin n'avait pas été représenté déjà aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Départ imminent maintenant ici sur la piste de Talence, le 100 mètres masculin, première épreuve phare de ces championnats du monde. C'est parti avec le gros départ de Ryan Zeze. Jeff Arius également a pris les devants. Ryan Zeze peut-être qui arrive à 50 mètres, il est devant, c'est Ryan Zeze qui va être champion de France. Le chrono 10-27, on est très très loin des minima. Il n'y aura pas de bleu à Tokyo pour représenter la France aux 100 mètres, mais quand même Ryan Zeze il est content parce que c'est son premier titre national sur la distance.
Merci beaucoup Romain. Écoute, merci de nous avoir fait vivre ce 100 mètres championnat de France d'athlétisme. On suivra les championnats de France tout le week-end. On est toujours avec Maxime Tilliette dans l'after. On a parlé de Nice, on va parler de Monaco, on va profiter de ta présence et de ton retour de vacances pour parler de cette équipe de Monaco dont le mercato a été plutôt clinquant, même s'ils n'ont pas été trop dépensiers. Pogba, Ansu Fati, Eric Dyer, qui sont venus libres. Comment on peut juger cette intersaison de l'AS Monaco? Donc, je sais qu'il y aura d'autres matchs de préparation, notamment contre l'Inter Milan la semaine prochaine, qui nous en dira un petit peu plus sur les ambitions de ce club, mais justement sur ce qu'on a pu voir de cette intersaison.
Bon, déjà, il y a eu une intersaison avec un seul match nul et que des victoires. Donc sur 6 matchs, ça se passe plutôt bien, en ayant fait aussi de larges revues d'effectifs, puisque cette semaine, mercredi et jeudi, il y a eu deux confrontations coup sur coup face au Torino, avec voilà deux équipes totalement remaniées d'un jour sur l'autre. Et à chaque fois, ça s'est terminé par un succès 3-1 des Monégasques. Et il va y avoir dimanche un match à la Johan Cruyff Arena face à l'Ajax, puis vendredi, la réception l'Inter Milan. Donc voilà, il y a un gros programme chargé de matchs amicaux cet été pour l'ASM dans un groupe voilà, qui est plutôt dans la continuité par rapport à celui de la saison passée. Aucun départ majeur en tout cas. Les seuls qui sont partis sont Al-Mousrati dont l'option d'achat n'a pas été levée, Ismaël Jacobs lui, son option d'achat elle a été levée par Galatasaray où il était prêté, et Dan Job lui est prêté aussi cette saison. Et puis on parlait de Neom, il y a Simon Bouabré qui lui a décidé de filer en Arabie Saoudite. 19 ans, 5 apparitions, je sais que vous en avez parlé pas mal de fois ces derniers jours, il lui restait qu'un an de contrat. Voilà pour ce qui est des départs côté monégasque. Tu le disais au niveau arrivé, Pogba et Fati qui, pour l'info, s'entraînent toujours à l'écart du groupe et suivent toujours leur préparation personnalisée. Il y a Eric Dyer qui lui est opérationnel, qui a joué pendant cette préparation et qui aura sans doute un rôle à jouer dans cette défense, mais il y a beaucoup de concurrence puisqu'il n'y a pas eu de départ. Et sinon, voilà, que des retours de prêt. Et parmi ces retours de prêt, il y a un joueur qui peut tirer son épingle du jeu, c'est Paris Brunner. On a un jeune attaquant allemand qui était au Cercle Bruges et qui marque des points pendant cette préparation. Il a notamment été essayé aux côtés de Mika Biret face au Torino. Donc il y a de la concurrence, il y a même un embouteillage hein, parce que Biret, qui d'ailleurs a prolongé cet été, est toujours là. Il y a Mbolo qui arrive à un an de la fin de son contrat. Ajouté à cela, Balogun,
ah oui,
Brunner dont je parlais. Il est Nikena. Myron Boadou est toujours là après ses nombreux prêts, et il est toujours à l'AS Monaco. Et puis il y a le jeune Lucas Michel qui d'ailleurs, voyant tout ce beau monde, serait voilà,
oui, il y a des clubs d'aller voir peut-être qui sont intéressés par son profil.
Et ouais, voilà, pour aller chercher du temps de jeu. Voilà, il devrait évidemment y avoir des départs dans ce secteur. Et puis l'autre dossier, c'est Marnès Akliouche qui est un peu à l'instar d'un Evan Guessant à Nice. Voilà, il n'a pas encore reçu l'offre attendue, ni lui ni le club. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il fasse une saison de plus. Hein. Lui l'a toujours dit, il est sous contrat, même si voilà, la volonté côté club comme côté joueur, c'est plutôt de passer un cap cet été dans sa carrière, mais encore faut-il que l'opportunité se présente.
Bon, il y a du monde, on l'a vu hein, d'ailleurs au niveau offensif, c'est pas toujours un avantage, les coachs ils n'aiment pas trop travailler avec des groupes comme ça.
Ben Seguir, on en a parlé.
Non, mais lui, ça doit être une recrue. Ben Seguir, Akliouche
Balogun et Golovin, pour moi, c'est quatre joueurs qui doivent beaucoup à l'AS Monaco la saison prochaine. C'est quatre joueurs, à mon sens, qui ont failli pour des raisons différentes. On sait que Ben Seguir...
Ah, tu trouves qu'Akliouche a failli, toi, pas ?
Oui, je
les mets dans le même...
Par rapport à son potentiel immense, absolument. Akliouche, pour te dire, moi, je le voyais comme recrue prioritaire, idéalement au PSG. Donc, c'est à quel point, en fait, j'ai de l'estime pour lui. Et Akliouche, ça ne me dérangerait pas qu'il fasse enfin une saison complète, notamment dans les très gros matchs. L'année dernière, par exemple, contre Benfica, il m'a un peu déçu. Ben Seguir, deuxième partie de saison, ouais, il a complètement disparu. Balogun doit prouver que ça, il peut justifier l'investissement, je crois que c'était 35 millions d'euros que l'ASM a fait sur lui, et que ça peut être un joueur d'équipe dominante. Et Golovin, qu'on annonçait régulièrement en Russie, qui a été transparent l'année dernière, il a un certain statut, il a aussi ce statut un peu de chouchou du propriétaire, il doit lui aussi confirmer. Donc les recrues, elles sont aussi là. Alors il y a trois joueurs qui ont franchement déçu l'année dernière, et un joueur qui doit, à Kliouche, qui doit encore confirmer son immense potentiel.
Lesquels je pouvais être.
Duo par Stevie Wonder, par Ray Charles.
Non, bon, ça, je... ça, non mais ça peut être un délire. Ou... Ah, ouais. La terre manque, sa terre, son village.
Vie au travail a du sens.
Donald Trump de ce soir, hein, qui est tout très...
Moins mis sur le marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fermé la...
Puni et...
Alors se bander les yeux.
Parce que le calendrier, il est lunaire. Pourquoi le calendrier ?
N'a pas évolué.
Et qui n'en voit pas l'heure.
Mais rester à Monaco et prouver que c'est un leader, comme Max l'a dit, dans les gros matchs. Moi, encore une fois, dans les gros matchs, je veux plus le voir, notamment dans certains gros matchs avec des champions. Dans ce qui compte, ouais, il y a encore une marge de progression.
Tiens, et puisqu'on le voit encore cet été, l'enveloppe.
Splendeur, qui fait partie de cette intégrale des 5 concertos pour piano et orchestre de Beethoven, enregistrée entre 1983 et 1985 par Murray Paraya en soliste et l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink. Enregistrement Sony qui nous permettait à l'instant d'écouter dans son intégralité, bien sûr, sur Radio Classique, le concerto numéro 3 de Beethoven, le concerto en ut mineur, l'opus 37. Et je vous rappelle, rien que pour le plaisir, les interprètes, Murray Paraya et l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink. Murray Paraya fait aussi partie de ces pianistes qui aiment jouer des pages écrites à l'origine pour clavecin, de Jean-Sébastien Bach bien sûr, ainsi que de Scarlatti ou Handel, les trois compositeurs nés en 1685, mais l'une de ses grandes spécialités reste l'univers de Mozart. Et en matière de discographique, c'est son intégrale des concertos pour piano de Mozart qui a apporté la consécration à Murray Paraya, une intégrale parue relativement peu après celle de Daniel Barenboim et présentant des similitudes puisqu'à l'instar de Barenboim, Murray Paraya a dirigé de son piano l'English Chamber Orchestra, intégrale réalisée en l'occurrence en 10 ans, de 1975 à 1984, et puis 1988 pour les concertos à 2 et à 3 pianos, et puis également une regravure de 2 concertos en 1990, mais cette fois avec l'Orchestre de Chambre d'Europe. Depuis, c'est plutôt avec un autre orchestre de chambre britannique que joue Murray Paraya, l'Academy of St. Martin in the Fields, mais c'est un autre partenaire encore que je vous propose de retrouver maintenant en sa compagnie, Radu Lupu, avec qui Paraya a souvent joué et enregistré, et par exemple en juin 1984, pour la sonate à deux pianos Köchel 448 de Mozart. Alors voici précisément cette sonate en ré majeur à deux pianos de Mozart, Murray Paraya et Radu Lupu. Thank you.
vas-y, passe, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et voilà, j'y ai trouvé énormément de choses et qui m'ont permis de comprendre quel rapport, par exemple, j'entretiens aussi avec la langue, alors pour le coup, la langue française. Mmh. Quel rapport on a, en fait, cette grille de lecture qu'on a.
Vous lisez l'arabe ?
Alors non, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, immigrés, qui lisent pas l'arabe, énormément. Et ça, pour moi, c'est dommage. Je parle la langue algérienne, mais je la lis pas. Donc ça, c'est quelque chose sur quelque chose. Je me dis, ah tiens, je suis en train de louper peut-être quelque chose. Et mon seul prisme, finalement, c'est la langue française.
Qui n'a pas n'importe quelle histoire avec la langue algérienne par ailleurs.
Exactement. Et ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose à prendre en conscience, en fait. Et ce livre-là, là où je n'arrivais pas à mettre les mots, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, les livres me permettent de mettre des mots là où j'ai des intuitions, où j'arrive pas à poser certains mots, certaines choses.
Je lis ?
Ouais. Je l'ai pris, il est doigté.
Si, il est là, il est.
Ah, ben voilà.
Alors, page 60. C'était ça ou pas que vous vouliez lire ?
Ok.
Ouais, on n'a qu'à reprendre
ouais,
ici ?
Oui.
Parce que cette phrase, je sais pas ce que c'est du coup, franchement. Je pense que c'est une erreur de notre part.
Oui, bah, c'est peut-être moi, hein. Vous savez, des fois ça arrive.
Ok, oui. J'avance, je vois où je m'arrête. Mm-hmm. Toi, je peux prendre Je crois qu'écrire en kikuyu.
Ouais.
C'est pas mal, comme ça parle bien de sa propre langue.
Exactement.
Parce qu'on parle d'un homme qui est kényan.
Exactement.
Voilà. Je crois qu'écrire en kikuyu, langue kényane, langue africaine, est une façon de contribuer, à ma modeste échelle, au combat des peuples kényans et africains contre l'impérialisme. Dans les écoles et les universités, nos langues locales, celles des nombreuses nations qui forment le Kenya, étaient associées à l'arriération et au sous-développement. Nous qui allâmes à l'école, apprîmes avec le temps à mépriser ces langues qui nous valaient tous les jours humiliation et châtiment. Je ne veux pas que les enfants du Kenya d'aujourd'hui héritent de cette tradition impérialiste qui consiste à mépriser les formes de communication développées par leur communauté au long de l'histoire. Je veux qu'ils s'affranchissent de l'aliénation coloniale. L'aliénation coloniale prend deux formes indissociablement liées. L'une qui consiste à se détacher volontairement ou involontairement de la réalité environnante. L'autre qui consiste à s'identifier volontairement ou involontairement à des éléments parfaitement étrangers à cette réalité. L'aliénation coloniale se met en place dès que la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l'éducation scolaire, du développement intellectuel, se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques quotidiens. Elle revient à séparer l'esprit du corps et à leur assigner deux sphères séparées. À une échelle plus globale, elle aboutit à une société d'esprit sans corps et de corps sans esprit. C'est ouf. Ça fait
ah ouais. Des petits frissons. Ah ouais, c'est dingue.
Ouais, ça me fait des petits frissons.
Ah oui. Ça me rappelle beaucoup de choses, en fait. Quand ce texte-là, ça m'émeut beaucoup parce qu'il y a plein de choses. Il parle de beaucoup de choses, mine de rien, c'est court, mais c'est très dense dans ce qu'il raconte. La première chose qui m'est venue en tête, c'est ce rapport au mépris de la langue. C'est-à-dire, par exemple, le rapport au mépris de la langue arabe. Par exemple, ça, c'est lié aussi à l'aliénation coloniale. Ça, c'est vraiment né de ça. C'est-à-dire que moi, je vais parler arabe, ça reste encore, ou très peu vont te dire « Ah, mais non, mais moi, je parle pas, ah, mais je lis pas. » Mais on va dire « Bah non, mais c'est un pur hasard, c'est genre parce que ils ont pas pu, les parents ont pas transmis. » Mais je pense qu'il y a vraiment une manière aussi de dénigrement de sa propre langue intériorisée. Et ça, pour moi, c'était un des fondements. J'ai vécu pendant très longtemps ce mépris même identitaire, mais aussi ce mépris de la langue, de ne pas connaître cette langue, de sa richesse, finalement.
Mais il y a aussi quelque chose que je trouve hyper beau dans ce qu'il dit, c'est la violence coloniale qui passe par une dissociation des échanges domestiques et de la langue de l'institution.
Et ça, c'est par exemple, c'est très lié. Alors ça c'est quelque chose que j'ai re-regardé ensuite, par exemple, sur quelqu'un comme Antoine Porot, qui était psychiatre en Algérie, qui avait monté l'hôpital Frantz Fanon, qui s'appelait Joinville à l'époque. Finalement, dans sa psychiatrie racialiste, c'est les racines de l'idéologie racialiste, il avait complètement dissocié, il disait que les indigènes n'avaient pas la possibilité d'aller dans le monde des idées. Finalement, c'est aussi un rapport à la langue. Et Fanon, qu'est-ce qui révolutionne là-dedans? C'est qu'il commence à s'intéresser à l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la culture, mais la culture, elle passe aussi par la langue. Pour lui, à l'époque, elle disait non, c'est pas ça, c'est la langue A1, mais ça leur permet pas d'avoir le monde des idées. Le monde des idées, c'est la langue, c'est le langage, c'est le texte, c'est les mots latins, c'est le français. Vous voyez? Et donc ça crée aussi des sortes de dissociations. Ça, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes et qui sont même, nous, c'est comme si tu étais prisonnier d'une langue. Et donc, finalement, en apprendre une autre et réapprendre la langue, par exemple, maternelle, c'est toujours intéressant de la connaître parce que ça te permet, toi, de switcher d'une à une autre. Mais la dévalorisation de cette langue aussi, elle pose problème parce que finalement, les gens ne se l'approprient pas parce qu'elle est dévalorisée, parce qu'ils utilisent une langue qui est l'ancienne langue coloniale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le français. Le français est une belle langue, ce n'est pas le problème. Je dis simplement que prendre ça en conscience, avoir conscience de tout ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que même si je parle, même si j'écris et que j'écris en français, ça reste quand même, elle a une histoire, elle raconte quelque chose. Et voilà, et donc il faut en avoir conscience quand on la lit. Voilà.
Est-ce qu'on a le temps pour un dernier texte? Ok, alors on commence par Belouf et on verra ce qu'il reste comme temps pour Etalanan. Alors là, c'est un ouvrage important dans la pensée de Bell Hooks qui s'appelle « À propos d'amour », qui a été publié par les éditions Divergence, qui font un travail important autour de l'œuvre de Bell Hooks.
Bell Hooks, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai lu « Surveiller et punir » de Foucault. Ça a été vraiment genre un choc. Et ça, il faut que je remercie une amie, et je lui fais une petite dédicace parce que quand même, à chaque fois, je ne l'ai jamais remercié de ça. C'est Gail Swan qui m'avait introduit le travail de Bell Hooks et qui m'a permis de m'intéresser à ces textes. Et c'est vrai que aujourd'hui, là, je lis un autre livre aussi de Bell Hooks qui est juste là, que je commence en ce moment à lire et dont c'est De la marge au centre, un très beau livre sur les théories féministes. Je ne vais pas faire le féministe, c'est pas le but, c'est parce que ça me fait comprendre aussi, moi, ma propre position d'homme. Et ça m'a même fait comprendre des rapports même profonds, même familiaux, pour le coup.
Eh bien, je vais le lire.
Ouais.
L'extrait que vous avez choisi, Mohamed Bourouissa, la traduction, elle est signée d'Alex Taillard et Florence Zeng. Pareil, je découvre. Les hommes que j'ai aimés ont toujours menti pour éviter de se disputer ou d'assumer la responsabilité d'un comportement inapproprié. Dans son livre révolutionnaire, The Mermaid and the Minotaur, Sexual Arrangement and Human Malaise, Dorothy Dinnerstein explique que lorsqu'un petit garçon apprend que sa puissante mère qui contrôle sa vie n'a en réalité aucun pouvoir au sein du patriarcat, cela le perturbe et le met en rage. Le mensonge est alors l'un des moyens stratégiques qu'il emploie pour faire n'importe quoi et rendre sa mère impuissante. Le mensonge lui permet de manipuler sa mère et de révéler son manque de pouvoir. Il se sent ainsi plus puissant. Les hommes apprennent à mentir pour devenir plus puissants. Les femmes font de même, mais elles mentent aussi pour feindre l'impuissance. Dans son ouvrage, Harriet Lerner explique que le patriarcat soutient la tromperie en encourageant les femmes à se présenter aux hommes sous un faux jour et vice-versa. Dans son livre intitulé « 100 Lies Men Tell Women », Dory Hollander confirme que si les femmes mentent comme les hommes, ces données et les conclusions d'autres chercheurs ou chercheuses indiquent que les hommes ont tendance à mentir davantage et avec des conséquences plus dévastatrices. Beaucoup de jeunes hommes ont goûté pour la première fois au pouvoir en s'en tirant bien lorsqu'ils mentent à des adultes plus puissantes qu'eux. Beaucoup d'hommes m'ont confié qu'il leur était difficile de dire la vérité lorsqu'ils voyaient bien que cela risquait de blesser un être cher. Il est à noter que pour tous ces garçons menteurs, qui se comportent ainsi pour éviter de blesser leur mère ou d'autres personnes, le mensonge se fait si habituel qu'il leur devient difficile de le distinguer de la vérité. ce comportement se poursuit à l'âge adulte.
J'ai ramené que des livres, genre, j'ai pris que des trucs, que des bombes comme ça. J'ai décidé de faire une émission.
Avec que des bombes dedans.
Ouais, non, mais arrêtez de dire ça. Non, dites pas ça. Non, c'est pas bon. Que des trucs, genre, bon. Ouais. Mais oui, c'est. J'avoue. Ça me parle, le mensonge, oui. Alors, est-ce que je mens encore? J'essaie en tout cas de moins mentir. Parce que, est-ce qu'on maîtrise parfois? Des fois, je pense que même c'est inconscient. Et ce rapport au mensonge, moi, je pense qu'il dit beaucoup de nos rapports, pas uniquement avec les femmes, mais aussi de nos rapports avec les hommes, de nos rapports avec le pouvoir, pour essayer de s'en sortir. Et je pense que, en tant que, pour le coup, en tant qu'homme, j'ai utilisé aussi beaucoup le mensonge. Ça me fait aussi comprendre, conscientiser, comme je vous disais, par rapport à déconnecter l'esprit, conscientiser tous ces mécanismes qui sont là, qui sont présents, alors qui sont de l'ordre plus large, d'un point de vue sociétal, mais aussi de l'ordre de l'intime. Mais aussi le mensonge familial, finalement. Le mensonge de certaines femmes pour protéger d'autres, pour aussi pour se protéger elles-mêmes aussi. Et le mensonge, voilà, c'est quelque chose qui est finalement qui est très présent. Et il est aussi présent dans ce rapport homme-femme que Bell Hooks décrit très bien. Mmh. Voilà. Et pour moi, c'était aussi quelque chose qui est assez intéressant à rendre visible, cette idée du mensonge. Mmh. Et le rapport du mensonge, le rapport au contrôle et effectivement du patriarcat aussi. Bah, tout ça, en fait, il y a des liens qui se font. Donc pour moi, voilà, c'est...
Lire, ça permet de comprendre ça.
Bah, c'est... Si Bell Hooks était là encore, si elle était encore vivante, elle aurait pu me le dire de haute voix. La lecture, c'est sa pensée. C'est la puissance de sa pensée. Effectivement, le texte permet de pouvoir accéder à la pensée de l'autre et pouvoir lire ces textes-là. C'est aussi d'avoir accès à cette liberté-là que les gens se donnent à un certain moment donné.
On fait un signe silencieux vers Etel Adnan. Elle faisait partie de vos choix.
Oui, mais...
Le temps nous a manqué.
Ouais, dommage. Etel Adnan, c'était
mais
quoi?
Mais on pense à elle.
Oui, très fort, parce qu'elle est... c'était quoi le texte d'Etel Adnan? Ah bah, je veux le lire, si vous voulez, parce que je vous ai fait lire. Et ça, je veux bien vous le lire, parce que ce texte, il est tellement beau. Vous voyez, comme quoi, j'ai un rapport à la lecture, et finalement...
et finalement, je demandais à lire.
Mais j'avais vraiment envie de vous lire ce texte que je trouve vraiment magnifique, pour le coup. Debout dorment les arbres de cette forêt qui cria la nuit quand la lune regardait ailleurs. Disparus les voiliers, la mer, dans cette obscurité qui ne tient pas promesse. Un champ de rosiers a été coupé par le vent. Des ombres ressemblent étrangement aux arbres d'hier. Hier et demain sont les murs de nos prisons. Ces ombres nous ont fait atterrir dans des taxis et des maisons, disant à la lumière d'attendre dehors, mais la lune avait raison de ne pas s'en faire. Les noces de l'histoire avec le café que nous buvons, en nos jours sans cesse plus courts, éveillent nos besoins de réinventer l'amour. Des coquillages vides reposent sur la plage à des heures toujours incertaines. L'Indien refuse de couper l'herbe car elle est, dit-il, la chevelure de sa mère. Et je lui ai promis que je ne briserai aucune pierre, car elle pourrait bien être la maison de son âme. La philosophie nous ramène à la simplicité. Voilà.
Trop beau. Merci beaucoup.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
Franchement, c'était un super voyage.
Bah, merci.
Ah oui, une minute de silence.
Ah, pour l'ambiance. Ok. Bien si j'ai pas de... C'est silencieux.
Some point in the past, I dreamed of it now, that I finally grasped, couldn't tell you just how, I know it wasn't by chance, couldn't say that I planned, but it's cake that I eat, you could say that it panned, I was riddled with doubt, knew I was the man, when
no money to count. Who care who I am? Anyone who would hit, anyone who would stay. One by one a career, made out of mistakes. Started out in a jam, ended up on stage. Long way from the park, still there in the way. Kept alive in my heart, took a vibe on a plane. Inspired a spark, ignited a flame. Not afraid of the dark, so I thrive in the grave. When the move wasn't clear, on the grind I would pave. Yeah, I'm making my mark, like a permanent stain. Redefining the art, when provided a frame. Live life in the wind, take flight on the wind. Just go with the flow, who knows where it is. No matter the time, gotta come with the soul. Dust on, I'ma shine, cause the light is within. Live life in the wind, take flight on the wind. Just go with the flow, who knows where it is. No matter the time, gotta come with the soul. Dust on, I'ma shine, cause the light is within.
À la prise de son, à l'atelier de Mohamed.
Baby, can't you see?